Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier sur IDFM pour un nouveau Rendez-vous Compte, magazine culturel de proximité. Et aujourd'hui, je vous propose un rendez-vous ponctué de bonnes nouvelles, de quotidien du médecin et pourquoi pas d'une odeur de but à gaz qui nous mènera jusqu'au diable Vauvert, le tout en version originale sous-titrée Rendez-vous Compte. Bonjour Élodie.
Bonjour Didier.
Donc Élodie Torrente.
Oui, c'est moi-même.
Comment ça va? Donne-nous tes nouvelles, Élodie.
Alors, ça va très bien. Ça va très bien. L'actualité est dense en ce moment, hein, on ne peut pas dire, pour les auteurs et les autrices.
Voilà.
Mais oui, ça va bien. Grosso modo, ça va bien.
Voilà, donc tu as dit le mot clé, à savoir autrice.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, comment ça va? Donnez-nous des nouvelles.
Oui.
C'est un de tes premières publications.
Tout à fait. C'est mon premier recueil de nouvelles en 2008. Donc, ce n'est pas tout jeune. Hein. S'il y a des enfants qui nous écoutent, ils vont rire. Voilà, en 2008, c'est une histoire assez amusante puisque je n'avais pas du tout prévu de publier. J'ai écrit une première nouvelle. À l'époque, on avait déjà des blogs, mais qui étaient moins connus que maintenant. Et puis, j'ai un éditeur qui a aimé cette nouvelle. Et du coup, c'est parti. Et on a fait un premier recueil, voilà, avec 22 nouvelles qui sont inspirées des actualités. Déjà, je suis un animal politique.
Ah, pas mal. Je retiens l'expression. Alors, pour te présenter, à part ça, j'ai vu hein, sur ton compte personnel, j'aimerais repenser, lire, manger, danser, le théâtre, le cinéma, la musique, l'amitié, discuter, jouer aux cartes, boire du rhum. Le soleil, le froid sec, les alizés, les enfants, l'humanisme, le féminisme, l'amour, l'écoute, l'entente, la langue, des signes, le risque, le changement, point de suspension.
Tout ça, exactement, tout ça. Et encore plein d'autres choses. Je pourrais dire aussi ce que j'aime pas, mais je voulais faire quelque chose où j'aime. J'ai lu quelque chose de positif. Je pense que je suis assez positive.
Bon.
Voilà. Assez colérique, mais assez positive.
On en a besoin. Alors, Élodie, tu vis à Auvers-sur-Oise.
J'ai cette chance, oui, en effet.
Voilà, vraiment une chance. C'est un lieu chargé d'histoire artistique.
Tout à fait.
Hein, beaucoup d'écrivains.
Oui, il y a
des artistes.
Philippe Delerme, qui est originaire de... Enfin, la famille est originaire d'Auvers. Bon, il y a beaucoup, effectivement, d'artistes plasticiens. Bon, on connaît, hein, il y a Van Gogh, évidemment, Pissarro y est passé. Enfin, ouais. Voilà, Auvers n'est plus à présenter dans le Val d'Oise, je crois.
Non. Est-ce que cette ville a influencé ton inspiration?
Elle a influencé mon inspiration. Oui, alors déjà sur une nouvelle que j'ai écrite sur, comme je te le disais, sur Vincent Van Gogh, et notamment plutôt sa partie à Arles en plus, donc je ne devrais pas le dire. Mais après, non, pas vraiment. Moi, j'adorerais, je n'ai pas encore osé frapper. Il y a des superbes maisons, il y a limite c'est des châteaux hein, qu'il y a au vert pour certaines parties. Et j'aimerais beaucoup aller les visiter et m'inspirer d'un lieu comme ça, mais je n'ai jamais osé en fait, le faire. Donc, je ne sais pas s'il y a des Auversois qui m'entendent et qui ont ces belles maisons-là, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'après, vivre à Auvers, c'est absolument génial. On a tout. Il y en a une vie culturelle, on n'est pas loin de Paris. La campagne, moi, je marche beaucoup. Voilà, ce qui m'inspire, voilà, c'est marcher, il m'inspire beaucoup.
Le bord de l'Oise.
Le bord de l'Oise.
Qui est très bien aménagé.
Oui, les champs. Enfin, vous avez toujours, il y a toujours quelque chose à faire à Auvers. Donc ça, c'est vraiment sympathique.
Alors, il y a une formule aussi qui te définit. C'est « Je suis si simple que j'en deviens complexe naturellement ».
Tout à fait. Ça, c'était une boutade, en fait, avec d'autres amis auteurs. Et puis, j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était pas mal parce que c'est vrai. Que, vous voyez, je le pense vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit qu'on est simple, on est tous forcément complexes. Hein. On ne peut pas dire que quand même, puis qui se connaît vraiment, vous savez, hein, enfin, on se connaît avec la vie, l'expérience, mais aussi avec les obstacles. Donc bon, voilà, j'ai eu la chance d'avoir quelques obstacles quand même. Donc,
voilà, petite larme au passage.
Non, pas du tout, non, au contraire. Je pense que ça forge beaucoup.
Alors pourquoi le genre de la nouvelle?
Parce que c'est ce qui m'est venu, parce que déjà ça fait peur un roman au début, quand vous commencez à écrire un roman, donc c'est déjà beaucoup de pages, et puis ça fait peur, vous savez pas, moi quand je démarre sur une idée, et c'est une idée qui est bonne pour une nouvelle, mais qui ne me paraît pas assez fournie pour en faire un roman, avec des personnages de roman, etc. Et donc ma première idée, alors ça s'appelle, c'est ma première nouvelle, c'est Face à moi. Et Face à moi, c'est en fait cette histoire de cette femme là qui se fait refaire complètement le visage. C'est la première opération du visage total en France. Je vois ça aux infos. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette femme. C'est pas les médecins, c'est pas, même si c'est une avancée énorme, mais je me dis comment on peut vivre avec un visage qui n'est pas exactement le sien après avoir été... elle a été mangée par son chien, je crois. Moi, j'ai dit qu'elle avait été brûlée dans la nouvelle parce qu'on est toujours un peu obligé de maquiller les faits hein, quand on écrit de la fiction. Et voilà. Et donc, ça m'a... Et en fait, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé après, c'est-à-dire de me mettre à l'intérieur des personnages. Et je crois que ce que j'aime dans l'écriture, je viens aussi du théâtre quand même, et je crois que ça y fait, c'est d'être à l'intérieur des personnages. Voilà. Et donc, face à moi, et après, bon, bah, après, j'ai continué sur la lancée, à me mettre à l'intérieur de Van Gogh, à me mettre à l'intérieur de... Voilà.
Oui, c'est l'avantage de la ouais. nouvelle, c'est court, et on peut changer de oui. personnage, de style aussi.
Tout à fait, tout à fait. Et puis, le propos ne méritait pas un roman. Enfin, moi, je voulais la voir sortir de l'intervention, je voulais voir ces médecins qui s'enorgueillaient de cette réussite, ce qui est vrai, ces journalistes qui sont tous autour d'elle, et elle... Elle, comment elle vit ça? Des bandages, vous revoyez un visage qui n'est pas le vôtre. Enfin, comment on vit ça? Voilà, moi j'ai... En plus, c'est une vraie peur chez moi. J'ai toujours eu peur d'avoir le visage brûlé. Donc, je ne sais pas, je pense que ça aussi, vous savez, il y a quand même une résonance. Quand on n'écrit pas non plus de... On écrit sur des sujets qui nous touchent. Et voilà, les nouvelles, c'est quand même quelque chose d'assez court, de condensé sur un personnage central. On n'en a pas besoin d'en avoir plusieurs. Donc voilà, donc ça m'intéressait beaucoup de travailler comme ça.
Alors quand même deux écrivains qui t'ont un petit peu inspiré.
Oui, alors il y a Philippe Dian qui m'a inspiré. Il y en a plein qui m'ont inspiré parce que je lis depuis l'âge de 5 ans et demi. Je dévore les livres depuis toute petite. Ça, il faut le dire parce que je crois qu'on ne devient pas écrivain par hasard. On devient écrivain parce qu'on aime la littérature. Et parce qu'on aime la littérature, voilà, tout simplement. Moi, elle m'a sauvée, hein. Littéralement, je le dis souvent, mais c'est vrai que la littérature m'a sauvée, elle m'a fait rentrer dans des mondes qui n'étaient pas les miens, elle m'a permis de sortir de moi, voilà. Donc il y a eu Jean, bien sûr, mais il y a Frédéric Dard avec, je t'en parlais tout à l'heure, San Antonio, le premier, je comprenais rien, et puis à la fin du premier, j'ai commencé à comprendre Berruyer et tout ça, et là, je les ai, mais tous les uns derrière les autres. Alors, je ne sais pas tous, lui, il y en a 150, donc c'est pas vrai. Mais quand même, j'en ai lu pas mal. Un été, j'avais 12 ans et je me suis dit San Antonio, j'adore, je suis fan.
Une sacrée écriture, quoi.
Ouais, c'est génial. Il a inventé. Il a inventé des mots. Il a fait. Voilà, il a créé un monde et ça, c'est quand même the best, quoi. On peut pas. On l'oublie San Antonio. Je trouve, on en parle pas assez de Frédéric Dard, mais quand même, ça a été un gros apport. Mais il y a pas que lui. Hein. Je pense que, il y a lui. Il y a eu, bon, plus jeune Zola, évidemment. Évidemment, mais parce que bon, sur le côté social, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Moi, j'ai commencé avec la Comtesse de Ségur. Alors, la Comtesse de Ségur, en plus, Mairie-sur-Oise, parce que j'ai appris effectivement en habitant à Auvers qu'elle avait vécu au château de Mairie. Donc, la Comtesse de Ségur, donc oui, bah, en fait, et c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup, il y a beaucoup d'écrivains quand même qui m'ont porté. Voilà.
Première pause musicale.
On y va.
Algorithme.
Tout à fait, Fanny de Poule.
Alors, tu nous expliques pourquoi?
Alors, Fanny de Poule, parce que je l'ai découverte avec une chanson où elle a repris les phrases de Camus, d'Albert Camus. Donc, je la découvre comme ça avec ma plateforme d'écoute. Et puis, du coup, je cherchais un peu plus loin parce que, bon, je suis comme ça. Et là, je tombe sur Algorithme. Et Algorithme, c'est tellement notre société, c'est tellement ce à quoi il faut faire vraiment attention si on veut rester des humains et si on veut encore continuer à être libre et à maîtriser nos vies. Donc voilà, Algorithme.
On écoute.
Salam à cette foule qui se tient devant moi, à ce peuple qui roucoule dès que je capte son doigt. Le cliquetis de mon clavier retentit à chaque envoi. Picotis et picota, trois petits likes et puis s'en va. Salam à cette foule qui m'obéit si bien, qui se range dans le moule du parfait citoyen. Je suis le diable déguisé dans un corps d'ange gardien, et c'est pour mieux te cerner que je t'épie au quotidien. Je te guette dans le bois, je te guette dans la rue, je te guette même chez toi, aux toilettes, je te vois tout nu. Il est temps de te lever, il est temps de te lever, il est temps de te lever. Tu as reçu 8 messages vocaux sans importance et manqué 4 appels urgents par négligence. Au bout du jour, 6 rendez-vous planifiés, dont 5 que je n'aurais pas besoin de te rappeler. Parce que sur le deuxième combox que ta patronne t'a laissé, elle te dit que t'es virée.
Ouais, écoute, je vais te cacher, y a un truc qui cloche quand tu joues à Candy Crush pendant les heures de rush. Ta carrière est en plein crash. T'es pire qu'un mioche qui s'en fiche, et moi ça me fâche. Alors c'est peut-être fait un peu à l'arrache, mais j'ai mis une coche sur le fric que t'empoches. J'aime pas la triche, bon courage, à l'approche.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où je reçois l'autrice complexe et simple à la fois, donc Élodie Torrent, qui continue à nous parler de sa production littéraire très abondante. Alors, des nouvelles, mais alors tu dis toi-même sur ton compte que tu as disséminé dans des collectifs publiés chez différents éditeurs.
Tout à fait.
Alors, notamment un éditeur que j'aime bien personnellement qui s'appelle Short Edition.
Tout à fait. Short Edition, l'aventure, elle démarre un peu. J'ai un ami qui m'envoie un mail, il me dit « Regarde ça, je pense que ça va te plaire ». Et en effet, ça m'a plu, puisque Short Edition, je rentre chez eux au tout début, on est en 2011, et que effectivement, bah, j'ai fait... maintenant, ils ont arrêté de publier des auteurs, ils travaillent sur les collections qu'ils ont déjà, des auteurs français, mais jusqu'à la fin, j'ai été publié par eux... au départ, c'était des concours de nouvelles à l'intérieur du site. Il y avait une nouvelle tous les trimestres qui sortait du lot, etc. Donc, j'ai eu de la chance à chaque fois d'être sélectionnée. Et souvent par le jury de l'éditeur et moins par le public parce qu'il y avait le jeu des votes entre public. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Et voilà, et donc Short Edition, ça m'a permis de faire, donc c'était génial. À l'époque, il n'y avait pas le distributeur d'histoires courtes dont on va parler, je suppose, mais c'était génial parce que ça m'a permis de faire des choses incroyables, tu vois, je pense me poser des questions, donc voilà, et d'écrire, bon, pas mal de nouvelles. Donc la première, je crois que ça s'appelle Le Présent, c'est sur une mamie qui n'est pas très gentille, et puis voilà, et donc, et ça commence comme ça, et je vais te laisser me poser des questions, je pense.
Voilà, alors parmi les nouvelles publiées par Short Édition. Il y en a une qui est, c'est incroyable, son destin. Mm-hmm. Où est-ce qu'on peut la lire ?
On peut la lire au Grand Hôtel de Cabourg. Voilà. Et il y en a une autre qu'on peut lire effectivement aussi au Cœur Marine de Trouville, dans la chaîne M Gallery by Sofitel, parce que bon, Short Edition a monté beaucoup de partenariats, effectivement, pour se faire connaître avant le distributeur d'histoires courtes, avant qu'ils aient cette magnifique idée du distributeur d'histoires courtes. Et donc, voilà. Et donc, on me demande pour le Festival de Cabourg de 2017, Short Edition me contacte et me dit « Écoute, Élodie, on aimerait bien que tu ailles écrire à Cabourg, dans la chambre de Proust. »
Bon, déjà, okay. C'est une aventure.
Bon, alors, je trouve ça génial, parce que moi, j'aime bien les défis, c'est vrai, hein, je l'ai dit, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai que j'aime bien ça, j'aime bien sortir un peu de ma zone de confort. Et du coup, bon, voilà, donc, bon, ils viennent, rendez-vous à Paris, on nous emmène jusque là-bas. Je pars avec des influenceurs, alors ça, c'était quand même une grosse expérience, puisque moi, des influenceurs, j'ai jamais été influenceuse de rien du tout, donc bon, voilà, donc, je me suis pas mal amusée. Et je me retrouve dans ce grand hôtel de Cabourg, en plein festival de cinéma, quand même, hein, donc, je ne me souviens plus. Mais c'était oui Marion Cotillard qui était présidente du festival, donc voilà. Et la nuit, je dois écrire dans la chambre de Proust, sauf que très compliqué, très très compliqué. Donc j'ai quand même une ou deux idées qui me viennent, bon, rien d'eux. Et puis j'ai l'impression de dormir avec Proust, hein. Enfin, très clairement, à un moment donné, je sens que ça remue dans la chambre, j'ai l'impression qu'il est là, donc j'arrive pas à dormir. Ça commence comme ça, et puis en fait, je l'écris dans le train entre deux hôtels, puisque après j'étais à Trouville, et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Et voilà, et donc Dans l'ombre de la 414, qui est traduite aussi en anglais et qui est offerte aux clients de la chambre 414.
Alors ça, c'est incroyable. Si vous voulez lire cette nouvelle, il faut vous rendre au Grand Hôtel de Cabourg.
Ouais, exactement.
À Cabourg.
Tout à fait.
Et réserver la chambre de Proust, la 414.
Ça. La 414, exactement.
Sinon, on ne peut pas la lire autrement.
Ben, je ne pense pas. Moi, il m'avait donné des petits exemplaires. Je ne pense pas. Je ne sais pas si ça... Enfin, je pense que ça continue, hein, puisque bon, voilà, moi, je suis plus rémunérée là-dessus, faut être clair. Mais il n'empêche que bon, c'était en tout cas le deal du départ. Après, je suis pas entre l'éditeur et le partenaire, ça c'est eux qui voient.
Alors oui, donc parmi les autres éditeurs, il y en a un qui s'appelle Au Diable Vauvert.
Tout à fait. Qui est assez connue, puisque c'est Marion Mazoric. Marion Mazoric, c'est elle qui a sorti d'ailleurs Philippe Dian. Donc, c'est une grande éditrice qui a ouvert sa petite maison d'édition, on va dire, à Vauvert, qui est à côté de Nîmes, en fait. Voilà.
Au Diable Vauvert, comme
Au
je
Diable
le disais
Vauvert, exactement.
Dans ma petite intro. Alors, c'est une nouvelle qui s'appelle Du corps au cœur.
Tout à fait.
C'est ça ?
Ouais.
Au Diable Vauvert. Et c'est publié dans un recueil qui s'appelle Un dîner de cons.
C'est ça.
C'est quoi cette
Mais
affaire,
c'est un recueil de nouvelles érotiques. Voilà. Ah. Donc, en fait, alors ça, c'est. Moi, j'aime beaucoup les lives d'écriture. Parce que,
ouais, alors, il faut préciser, un live d'écriture.
Alors,
quand même.
Un live d'écriture, c'est-à-dire que vous avez un sujet. Alors, soit on vous convoque, comme ça a été le cas avec Short Audition en 2012, on vous convoque. Là, ils nous ont convoqué invités dans un bar à 7h du matin. On nous donne un sujet. Ils avaient fait vraiment les choses très très bien parce que il y avait tout plein de viennoiseries, on nous servait le café à volonté, voilà. Donc en fait, c'était sur dossier, donc vous envoyez un dossier pour savoir si vous pouviez participer. Moi, j'étais donc en nouvelle, par exemple, ça c'est en 2012, et le concours d'écriture du corps au cœur, le dîner de cons, ça c'est en 2018, je crois, 2017, 2018, je ne sais plus.
2018.
Voilà. Et donc c'est un peu différent. Donc bon, en 2012, Short Edition monte la matinale et ça se passe dans un bar à Paris, au Barbat, dans le 12e, à la Bastille. Et donc on est convoqués tous à 6h30 du matin. Je dors bien la veille, ce qui était très étonnant. Et puis je me dis, il faut que je le gagne. J'avais besoin d'argent, je vais être claire aussi. Comme quoi, des fois, le besoin d'argent, c'est quand même très important. Je vivais seule avec mes deux enfants. Et donc, je me dis, je me prépare 15 jours avant. Et pendant 15 jours, j'écris, je demande à des gens de m'envoyer, mes amis, de m'envoyer un sujet. Je me dis, t'as 7 heures pour écrire en 7 heures. Okay. Et donc, je fais ça pendant 15 jours. Donc,
un entraînement, donc.
Voilà. Et je travaille comme une folle. Et je remporte la matinale.
Ah, bah, ça vaut le coup.
Ouais. Parce que j'étais. Parce que toutes les nouvelles pas bonnes, je les ai faites avant. Et là, au moment où on a trois mots, c'était vol, ver et pêche. Et on doit écrire une nouvelle avec ces trois mots. Et moi, je vois pas du tout ver et pêche comme la pêche, vous voyez. Je vois pas du tout, tu vois, je vois pas du tout ça. Je vois ver, V-A-I-R. Je vois vol.
Comme
le vol de l'avion. D'accord. Et donc, de fait, ça avait quelque chose d'assez original. Et puis, bon, je fais rire David Frenkinos, puisque je le fais rire, puisque ma nouvelle, moi j'aime beaucoup circumnavigation. Et elle s'appelle circumnavigation parce que c'est drôle. C'est le premier mot que je vois. Moi je travaille avec des dictionnaires aussi. Je trouve que le dictionnaire, c'est quand même très très important. Et donc, je vois circumnavigation, je me dis, ça c'est mon titre. Et puis, et à partir de ce titre-là, c'est parti comme ça, et la nouvelle. Et donc, je gagne. Et alors, en 2018, c'est pareil. Là aussi, on est sur un live d'écriture. Donc là, par contre, ça se passe chez nous. On est à distance. Et on a le sujet à minuit moins 5. Et on doit rendre à 7h du matin la nouvelle. Et là, bon, moi, je fais ma petite sieste avant minuit. Je me dis, allez, je vais dormir. Et là, je me dis, tiens, je vais écrire sur ça. Et puis, effectivement, le sujet tombe. Un dîner de cons, on ne sait pas. Et je ne tombe pas dans le piège, en plus du dîner de cons, du film. Parce qu'il y a ça aussi derrière. Hein. Et là, on est en érotique. Donc, bon, on sait très bien ce que signifie con en érotique. Voilà, OK. Et puis, je prends le parti d'écrire sur la sexualité des personnes âgées.
D'accord.
Ce qui a fait un peu rire. Voilà. Le jury.
Et donc, également un autre éditeur, Les Avocats du Diable.
Alors oui.
Alors, tu es vraiment abonné
Les Avocats
Diabolique.
Du Diable, non. Alors en fait, c'est l'association qui gère le Nouvel Érotique et aussi un concours sur la corrida, auquel je ne participe pas, le prix Hemingway. Et donc en fait, Les Avocats du Diable, c'est l'association qui est rattachée à la maison d'édition. D'accord. Donc voilà. Donc c'est... Non, je... Mais alors, on pourra y venir parce que... Effectivement, sur les romans derrière, il y a eu des petits couacs. Maintenant, je me méfie des noms des éditeurs.
Ah oui, oui, c'est jamais neutre.
Juste
une précision. Donc, tu as parlé de distributeurs d'histoire avec Short Edition.
Tout à fait.
Des distributeurs qui se trouvaient dans les gares.
C'est ça.
Et c'était génial.
Alors, dans les gares, dans les hôpitaux, dans les universités, dans les grandes entreprises et dans le monde entier. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'être... Mes nouvelles sont traduites en anglais. Donc, d'être, par exemple, aux États-Unis, d'être en Inde. J'ai de la chance de certaines nouvelles...
Et sur
IDFM. Et en plus, voilà, exactement. Ouais. Donc, j'ai la chance d'avoir des textes courts, quand même. Parce que sur Tradition, il faut savoir que pour le distributeur d'histoires courtes, on est sur 6000 à 8000 signes maximum. Donc, il faut faire du très court et sur des sujets, effectivement, qui sont plutôt grand public.
Ouais.
Parce qu'eux, ils vendent des catalogues. Ils vendent des catalogues à leurs clients.
Bien sûr.
Voilà.
Alors, autre collectif pour lequel tu as publié, Le Quotidien du Médecin.
Avec Short Edition, toujours, oui, effectivement, parce que Le Quotidien du Médecin décide avec Short Edition de faire des épisodes. Alors là, c'était travailler en épisodes, donc il y avait un épisode qui sortait toutes les semaines, donc je fais 6 ou 7 épisodes, 2 fois en fait. J'ai fait 2 publications sur les médecins, et donc en fait, à chaque fois, j'ai fait des nouvelles à suspense. Voilà, plutôt des thrillers.
Dans le milieu médical ? Pas forcément.
Pas du tout. Non, en fait, après, bon, toutes mes recherches, je les fais avant. Bien sûr, on fait valider, etc. Hein. On travaille aussi un peu avec l'éditeur. Mais non. Moi, non, on est assez libre, en fait, quand même. Hein. Bon, il fallait, bien sûr, dire. On n'avait pas le droit de dire des méchancetés sur les médecins.
Ah non.
Voilà, on ne peut pas.
Qui dirait des méchancetés sur les médecins.
C'est ça.
Et puis alors, autre collectif, Butagaz.
Butagaz, c'est pareil, c'est un partenariat Short Edition. Et là, là on nous demande d'écrire une nouvelle sur 2050.
Ah,
voilà.
Il n'y aura plus de Butagaz en principe.
En plus, oui, théoriquement, oui, théoriquement sur 2050. Et là, c'est pareil, ben moi, je m'amuse beaucoup avec cette nouvelle aussi, là, pour le coup, parce que... parce qu'en 2050, c'est un peu flippant. Et puis que je fais des recherches et que je me rends compte qu'il y a quand même des choses qui vont quand même beaucoup changer.
Ah, ça,
c'est clair. Voilà. Et ce qui m'a intéressé là, c'est que c'était une famille qui habitait aux quatre coins du monde, etc. Puisque bon, les gens habitent déjà aux quatre coins du monde. Donc j'imagine qu'en 2050, voilà. Mais avec des restrictions d'avion. En 2050. Et donc, et puis, il y a la grand-mère qui décède. Et je ne dis pas plus.
Bon, ben, on se retrouve en 2050. Ouais,
on se retrouve en 2050, il n'y a pas de problème. Je suis pas sûre.
Deuxième pause musicale.
On y va.
Coquelicot.
Oui, tout à fait.
Alors, nous Coquelicot,
sommes. Coquelicot, bah, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps dans une manifestation pour les enfants, le collectif enfantiste que je suis. Voilà, je suis très, très. Très engagée pour les enfants et les femmes. Enfin, je suis très engagée pour l'humain, finalement, parce que, bon... Et Coquelicot, je la rencontre à ce moment-là, et puis je vais la voir. J'aime beaucoup sa chanson « Nous sommes ». On décide de se revoir pour travailler ensemble, puisque moi, je suis en train de me lancer dans la musique aussi, parallèlement. Et puis, voilà. Donc, et là, quand tu m'as demandé quelle musique, et ben, je me suis dit « Coquelicot, c'est bien, ça va lui faire un peu de publicité ». Puis, j'aime beaucoup ce titre. Voilà.
On écoute.
On ne laissera pas leur haine nous diviser. On ne les laissera pas nous enlever notre joie. On est contre eux, mais on est surtout pour nous.
Nous sommes l'histoire qui se rappelle, l'écho des cris de nos grands-mères. Nous sommes la résistance d'un peuple juste révolutionnaire. Nous sommes fortes, nous sommes fières, féministes et en colère. Nous sommes le torrent, la rivière, poussière d'étoiles dans l'univers. Nous sommes cette chaîne solidaire, nous sommes les mères d'une nouvelle ère. Nous sommes la rage qui jaillit, avide de paix et d'harmonie. Nous sommes la jeunesse d'un pays qui croit encore en l'utopie. Nous sommes l'ici, le maintenant, qui veut qu'on puisse vivre dignement. Nous sommes l'avenir que l'on espère, nous sommes nouveau front populaire. Nous sommes la danse dans le chaos, ce qu'il nous reste de plus beau. Cette fois on gagne, on gagne. Danse, danse, cette fois on gagne. On gagne.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où je reçois aujourd'hui Élodie Torrente qui continue à nous parler de sa production littéraire qui ne se limite pas à l'écriture de nouvelles. Premier roman.
Tout à fait, 2010.
Alors avec un drôle de titre, on va dire.
Oui, version originale sous-titrée français, VOSTFR ou VOST, comme on m'a déjà dit plusieurs fois. J'ai lu VOST, j'étais très étonnée, mais effectivement, pourquoi pas. Faut dire que le titre n'est pas facile et bon, c'est peut-être pas le meilleur titre que j'ai trouvé. Oui, alors VOSTFR, c'est sur les sourds, en fait. Ça ne vient pas de rien, j'ai une fille qui est née sourde, qui est sourde de naissance. Et je me suis rendu compte, quand est sortie Marie Hurtin et la famille Bélier, concomitamment en plus, que donc dans la famille Bélier, ils avaient, et ça je le sais par l'interne des sourds en fait, hein, ils n'avaient pas embauché des acteurs sourds alors que ça existe, et ils avaient utilisé une langue des signes qui n'était pas une bonne langue des signes. Alors ça c'est deuxième chose. Et en plus, surtout, tout ce qui était langue des signes, c'était traduit, écrit, pour les entendants, mais tout ce qui était parole, c'était pas écrit pour les sourds. Donc ça, c'était la première chose qui m'a beaucoup agacée, puisque ma fille ne peut pas voir de film français en salle, et je trouve ça pas normal. Et donc, et il y a eu Marie Hurtin. Marie Hurtin, c'est sur l'histoire là carrément des sourds. À l'époque, elle était à l'Institut National du Jeune Sourd à Paris, et ils vont tous voir Marie Hurtin, et bah, théoriquement, la salle, il y avait une copie sous-titrée, ils sont arrivés, il n'y avait pas de copie sous-titrée. Ça m'a agacé, j'ai fait un tweet. Personne n'a retweeté, puisque et là je comprends qu'en fait on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Donc je me dis, bon ok, c'est ça ton premier roman, ça va être pas de raconter l'histoire des sourds, mais prends un personnage, ma fille en l'occurrence, qui n'est plus ma fille hein, dans le livre, mais au début c'est quand même un peu elle, et de me mettre à la place d'elle, et puis effectivement de montrer, donc c'est une jeune femme qui veut devenir actrice, etc. Et puis bon, voilà. Et donc c'est le propos, c'est ça, c'est de dire. Elle le dit, hein, d'ailleurs, je suis étrangère dans mon propre pays, parce que c'est ça, en fait, hein, finalement, c'est ce qui est dit. Donc, voilà. Donc, et puis, je l'ai fait parce qu'elle n'allait pas bien, et que quand elle a lu le livre, elle l'a lu 3 fois, qu'il ne lit pas beaucoup, et elle allait beaucoup mieux, et elle a décidé de devenir actrice derrière. Donc, je trouve que, quand même, l'écriture a ce pouvoir de faire relever la tête aux gens.
Voilà. Très, très belle définition.
Ouais.
Alors justement, tu es aussi conseillère syndicale à la Ligue des auteurs professionnels, en plus du reste.
Oui, c'est ça.
Avec une orientation un petit peu de prévention des violences.
Tout à fait. Dans notre milieu, on n'est pas épargné.
Alors voilà, c'est la question que je voulais poser, parce qu'on imagine l'écrivain tout seul dans son coin, tranquille. Et pourtant, il peut être victime de...
Oui, par ses diffuseurs, les éditeurs. Hein. Enfin, moi, personnellement, ça m'est arrivé. J'ai un éditeur, je ne le nommerai pas, qui m'a mis la main dans le décolleté. Donc voilà, donc oui, ça existe. Et puis, nous sommes une population qui est très précaire. Nous sommes les plus précaires. Les artistes-auteurs sont les plus précaires de la culture actuellement. Alors, forcément, on doit accepter des choses qui font que ces violences, elles existent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Quand il faut manger, on accepte un peu tout et n'importe quoi, et c'est tout le problème. Donc c'est aussi pour ça que, comme je te le disais tout à l'heure, le 18 décembre, donc dans quelques jours au Sénat, on va discuter de continuité de revenus. On espère bien que ça va passer, parce que ça aussi, ça nous permettrait aussi d'avoir moins de violence quand même dans nos métiers. J'étais encore en réunion ce matin avec des artistes plasticiens. C'est terrible, hein. C'est terrible chez les jeunes, c'est terrible partout. Et alors que ce soit les violences morales, hein, parce qu'il n'y a pas que les violences sexistes et sexuelles, il y a les violences morales aussi, voilà.
Donc, il y a un MeToo auteur pour bientôt ?
Alors, moi, je ne suis pas fan du MeToo auteur. Moi, j'aimerais un MeToo général, un MeToo culture. Je trouve qu'en fait, je pense qu'en France, on a ce problème-là, mais ça, c'est vraiment mon avis, et c'est pas forcément celui de mes pairs, mais je l'ai déjà dit en réunion, c'est qu'à un moment donné, MeToo théâtre, alors oui, voilà, ils vont aller à l'Assemblée nationale, on va en discuter, MeToo cinéma, MeToo machin, mais sauf que MeToo, c'est partout, en fait. C'est partout, dès qu'il y a de la précarité.
MeToo partout.
MeToo partout, voilà. Ouais, alors, on pourrait lancer un hashtag, tiens.
Voilà, bah vas-y.
MeToo partout.
L'émission va bientôt se terminer. Alors quand même aussi, atelier d'écriture, concours d'éloquence.
Oui, tout à fait.
En 2 phrases.
Alors atelier d'écriture depuis effectivement quasi le début, enfin depuis 2011. Atelier d'écriture, beaucoup d'ateliers d'écriture.
Avec des jeunes,
non ? Avec des enfants. Je crois que j'ai fait toutes les populations. Il y a que en prison où j'ai pas été, où j'aimerais bien d'ailleurs pour le coup, mais voilà, je travaille avec Sorte Édition, m'a envoyé effectivement à l'Institut Curie. J'ai travaillé aussi au l'Institut du Cœur à la Pitié-Salpêtrière. Je fais les enfants à Auvers et tout dans toute la communauté de communes Sosseron impressionniste depuis quelques années. On les publie aussi, donc j'ai aussi ma casquette de graphiste par rapport à ça, puisque je fais aussi du graphisme de livres. Et puis voilà quoi, et puis le concours d'éloquence. Ça, c'est avec l'école de biologie industrielle à Cergy. Et là, ça fait aussi, ça pareil, ça fait un peu plus de 10 ans que je t'interviens pour eux. Et j'adore ça parce que j'ai des jeunes de 17 ans en face de moi. Et ça nous permet d'ouvrir les yeux, de discuter, de confronter les avis et de les pousser un peu dans leur retranchement et de faire en sorte qu'on ait des vrais citoyens en face de nous. Et voilà, c'est important.
Le mot qui fâche, intelligence artificielle.
C'est un mot qui fâche. Déjà, j'aime pas l'intelligence parce qu'il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Je suis désolée, mais enfin, je crois que déjà, il y a un problème de sémantique, hein, vraiment. Non, il n'y a pas d'intelligence. Il y a des gens derrière qui rentrent les données. Hein. Ça, c'est déjà, il faut quand même le dire. Ensuite, bon, ça nous a volé, nous, les auteurs, beaucoup de nos textes. Hein. ChatGPT, enfin, pas Chat, Meta, donc Facebook, etc. Meta a entraîné son intelligence artificielle générative à partir de livres volés. Sur Libgun Genesis. Donc voilà, ok, on en est là. On en est que, bon, nous, on ne va pas perdre notre boulot. Moi, je vais te dire très clairement, je pense, je l'ai testé, l'intelligence artificielle, comme tout le monde, je crois. C'est pas très créatif.
Non, au niveau de l'écriture.
C'est de la copie, de copie, de copie, de copie. Donc à un moment donné, je l'espère, cette copie-là, ça n'empêche pas qu'il faut qu'on légifère. Et c'est extrêmement important de légiférer sur cette intelligence artificielle. Voilà.
Voilà, notre émission est pratiquement terminée. Un dernier mot, un espoir.
Merci. Alors, un espoir, il y en a toujours. On est là, on est vivant, et ouais. Il faut qu'on soit ensemble. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit ensemble. Il faut arrêter d'être chacun pour soi.
Alors, comment est-ce qu'on peut te contacter ou avoir connaissance de ton travail ?
Par déjà mon site internet, eloditorrent.com. Voilà, tout attaché, Eloditorrent. Torrent comme un torrent avec un E à la fin.
Ça te va bien ?
Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Voilà. Et par les réseaux sociaux aussi, je suis partout. Hein. Vraiment, il n'y a aucun souci. Quoi. Et si vous êtes auteur et que vous avez besoin de conseils par la Ligue des auteurs professionnels, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours là pour vous aider. Voilà.
Voilà, ainsi se termine notre rendez-vous compte consacré cette semaine donc à l'autrice et multi-casquette, on va dire, Elodie Torrent. Une émission à réécouter en podcast sur le site d'IDFM. Merci Elodie.
Merci Didier.
Et quant à moi Didier, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de rendez-vous compte sur IDFM évidemment. Et en attendant, je vous retrouve aussi dimanche matin dans la matinale de midi pour ma chronique Nec plus Ultra, consacré aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque.